Info Matin, Nicolas Legrand.
Les Libanais du sud Beyrouth appelés à quitter les lieux. Tel Aviv vise les positions du Hezbollah, sixième jour de guerre au Proche et au Moyen-Orient. Un conflit qui a par ailleurs des conséquences pour les Calédoniens. Une hausse des prix des billets d'avion est attendue. Explications et conseils de la présidente du syndicat des agences de voyage dans ce journal. Justice, trois affaires de sang et trois affaires de mœurs. La première session d'assises de l'année 2026 s'ouvrira la semaine prochaine. Elle est prévue sur trois semaines. Présentation à suivre. Le sport du rugby et la France qui pourraient gagner le tournoi des Six Nations dès ce week-end. Pour ça, il faudra une victoire bonifiée aux hommes de Fabien Galthié face à l'Écosse. La météo en Nouvelle-Calédonie, des éclaircies ce matin, tandis que les nuages deviennent plus nombreux cet après-midi. Quant aux températures, elles atteignent entre 29 et 32 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité à l'étranger.
Oui, des files entières de voitures envahissent les routes de la banlieue sud de Beyrouth, direction le nord. Conséquence des frappes d'Israël dans l'objectif d'éradiquer les derniers bastions du Hezbollah. Le président libanais a appelé son homologue français pour qu'il puisse jouer de son influence pour obtenir un cessez-le-feu. Ce à quoi Emmanuel Macron a répondu ce matin qu'il établira un plan. Tout doit être fait pour empêcher que le Liban soit à nouveau entraîné dans la guerre. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État. Wilfried de Villers est à la frontière nord d'Israël avec le Liban pour Europe 1.
Mais tout là, tout d'abord, c'est cette ville, ou du moins ce bourg, c'est le bourg le plus septentrional d'Israël. C'est simple, la ligne bleue, la frontière avec le Liban, longe le village au nord, mais aussi à l'est et à l'ouest. Les communes libanaises les plus proches sont à moins de 2 kilomètres. Les journées ici sont rythmées depuis le début de la guerre, celle que nous avons vécue aujourd'hui, bien sûr, par les tirs d'artillerie israéliens vers les positions du Hezbollah, mais aussi par les sirènes d'alarme. Tout à l'heure, un drone du Hezbollah est passé au-dessus de Metula. Nous sommes allés nous réfugier dans un abri et sur la route pour nous rendre dans cette région de Haute-Galilée, eh bien nous avons croisé plus d'une vingtaine de convois militaires, des chars d'assaut, des blindés prêts à se déployer au Liban, même un hélicoptère de combat visiblement de retour de mission. Après plus d'un an de calme dans la région, les habitants sont donc à nouveau pris par la guerre.
Et le soir est tombé sur cet endroit du globe. Alors que se passe-t-il maintenant et quelles sont les perspectives à venir ?
À la frontière, les combats se concentrent en ce moment à Binjbel, un petit village poche de résistance du Hezbollah. L'objectif global de l'armée israélienne dans cette zone, c'est de créer, côté libanais, une zone tampon, un couloir en quelque sorte entre les deux pays, sorte de no man's land, au-delà du fleuve Litani. Des milliers donc d'habitants des Libanais ont dû évacuer le sud du pays. 140 communes au total ont été concernées. Puis, sur le terrain, c'est la division d'infanterie 91 qui est déployée. La cible reste évidemment le Hezbollah. C'est dans ce contexte que Tsahal appelle les habitants de la banlieue sud de Beyrouth à évacuer alors que des frappes semblent imminentes.
Wilfried de Villers, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, à la frontière donc avec le Liban. Et pendant ce temps-là, les alertes continuent de retentir dans l'État hébreu. L'aéroport de Tel Aviv a d'ailleurs été visé par les gardiens de la Révolution, mais finalement, ce sont simplement des débris de l'ogive détruite par le dôme de fer qui sont tombés à 4 km de ce lieu stratégique. L'autre fait marquant de ce conflit, c'est le torpillage hier en mer d'une frégate iranienne par un sous-marin américain au large du Sri Lanka. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale. En guise de représailles, l'Iran affirme avoir touché un pétrolier américain ce matin dans le Golfe avec un drone. Hier, Donald Trump disait que l'Iran n'avait plus de marine. Les faits montrent en réalité que si la marine iranienne est effectivement touchée, elle n'est pas encore coulée, William Molinier.
Effectivement, ce navire torpillé au large du Sri Lanka est présenté comme une pièce maîtresse de la marine iranienne. Il était entré en service récemment, il y a 5 ans, doté d'un arsenal de missiles antinavires et antiaériens, composante essentielle certes, mais pas exclusive. D'autres navires ont été coulés par les Américains. Alors oui, la marine iranienne a été endommagée, mais elle reste encore active. En tout cas, elle en a les moyens, puisqu'avant le déclenchement des hostilités, Téhéran disposait d'environ 150 navires, en comptant ceux des gardiens de la Révolution, et en plus d'au moins une vingtaine de mini-sous-marins et d'une trentaine de patrouilleurs d'attaque, de quoi perturber aujourd'hui encore le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, y compris de façon asymétrique, avec des petites embarcations de type hors-bord, chargées en explosifs, fabriquées à moindre coût, et qui constitueraient pour les navires commerciaux une menace au moins équivalente à celle d'une torpille.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Et puisqu'on parle du détroit d'Ormuz, le chef de la diplomatie iranienne assure que l'Iran n'a pas l'intention de fermer ce détroit, mais n'écarte pas une telle option si Israël et les États-Unis poursuivent leur guerre. De son côté, la marine française est engagée aussi, puisque le porte-avions Charles de Gaulle est en route vers la Méditerranée orientale. Et la question demeure, quelle position pour la France dans ce conflit entre Israël, les États-Unis et l'Iran ? Emmanuel Macron semble ne pas avoir tranché cette question pour le moment. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Oui, l'état-major français annonce ouvrir temporairement ses bases militaires du Moyen-Orient aux avions américains. En même temps, Emmanuel Macron se dit solidaire de l'Espagne qui refuse de faire la même chose. Un jeu d'équilibriste défendu par la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon.
La France travaille à soutenir ses partenaires régionaux dans une posture qui est une posture défensive pour les accompagner à garantir leur sécurité et, je le redis, contenir ce conflit pour éviter autant que possible l'escalade régionale et l'embrasement.
Dans la résolution de ce conflit, la France est encore une fois sur une ligne de crête. D'un côté, Emmanuel Macron renforce la présence militaire française dans la région. Une frégate est arrivée à Chypre. Le porte-avions Charles de Gaulle est en route pour la Méditerranée. La mer Rouge est sécurisée et une coalition tente de reprendre le détroit d'Ormuz à Téhéran. De l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot renoue avec son homologue iranien dans l'espoir de trouver un accord qui mette fin à ce conflit. Mais en réalité, cette initiative a très peu de chances d'aboutir car les États-Unis et l'Iran refusent toute négociation.
Et parmi les conséquences avec la guerre au Moyen-Orient, une flambée des prix des billets d'avion est à prévoir dans les prochaines semaines. Même à des milliers de kilomètres du conflit, le territoire n'échappe pas aux répercussions de cette crise internationale. Le secteur aérien est en première ligne. Ces derniers jours, de nombreux vols ont été perturbés avec la fermeture de plusieurs espaces aériens. Résultat, les compagnies doivent adapter leurs itinéraires, tandis que la demande de voyage continue d'être forte et les tarifs augmentent. Vaïa Frogier est la présidente du syndicat des agences de voyage.
La demande est toujours aussi importante pour les vols entre le Pacifique, l'Asie, vers l'Europe. Et aussi aujourd'hui, on se retrouve avec un tuyau qui est considérablement restreint et des tarifs qui commencent à s'envoler. Là, on voit les premières augmentations annoncées sur du tarif éco avec un surplus de 1 euro, par exemple. On ne peut pas dire combien de temps ça va durer. Mais la phrase qui est utilisée par les compagnies aériennes, c'est « jusqu'à un retour à une situation régulière ». Donc, qu'est-ce que c'est qu'une situation régulière ? On espère plus de guerre, quoi. Parce que là, les avions sont pris en tenaille dans un couloir entre deux fronts, entre la guerre en Ukraine et la guerre au Moyen-Orient. Et donc, ça met une pression phénoménale sur les tarifs des billets.
Et si vous avez donc un déplacement prévu, mieux vaut ne pas tarder pour réserver vos billets, conseille Vaïa Frogier.
Les personnes qui ont déjà pris leur billet d'avion n'ont pas de sujet, c'est-à-dire que le tarif il est payé, il est encaissé par la compagnie aérienne, donc eux vont décoller. Et les personnes qui projettent des voyages, des séjours dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, effectivement, c'est de ne pas tarder et de se mobiliser sur leur projet de voyage rapidement avant que toutes les augmentations ne se fassent sentir.
Et attention aux autres conséquences à venir. Le prix du carburant pourrait connaître également une hausse sur le territoire d'ici quelques mois.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Êtes-vous inquiet des éventuelles hausses des prix, notamment sur les carburants et les transports, en raison de la guerre au Moyen-Orient ? Si vous êtes inquiet, vous tapez 1. Si vous n'êtes pas inquiet, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. 56% des personnes interrogées, les auditeurs de Radio Rythme Bleu, qui se sont exprimés hier par SMS, pensent que les pays européens, dont la France, doivent se joindre aux États-Unis et à Israël pour mener la guerre contre l'Iran. Ils sont donc 44% à être d'un avis contraire. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Et enfin, dans l'actualité en métropole, une avancée majeure dans l'affaire Nahel. La cour d'appel de Versailles a rendu sa décision concernant le policier à l'origine du tir mortel sur ce jeune de 17 ans. C'était en juin 2023, lors d'un refus d'obtempérer. Les juges ont décidé de ne pas le renvoyer devant une cour d'assises, mais plutôt devant une cour criminelle départementale. La qualification de meurtre est effectivement définitivement abandonnée. Pour la cour d'appel, le policier n'a pas voulu tuer Nahel. Il sera donc jugé pour violence avec arme ayant entraîné la mort, mais sans intention de la donner. Il encourt désormais un maximum de 15 ans de réclusion criminelle et non plus 30. mais c'est en réalité une victoire en trompe-l'œil, selon son avocat, maître Laurent Franck Liénard, puisqu'il sera jugé par un jury de professionnels. Écoutez.
Par la cour criminelle, il va échapper au jury populaire et nous pensions véritablement qu'un jury populaire aurait tout à fait compris le sens de notre position et qu'il aurait eu le courage d'acquitter ce policier.
Quoi qu'il en arrive, le policier Florian M. estime que son tir était légitime puisque Naël, refusant d'obtempérer, le mettait en danger, lui, son collègue et des piétons. Il réclame donc son acquittement. C'est pourquoi il a décidé de se pourvoir en cassation pour contester ce renvoi. Il est 6h41, merci d'être avec nous. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir l'actualité sur le territoire et notamment les élections municipales qui se préparent.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Copama. La rentrée est là. Nouvelles habitudes, nouveaux projets et une priorité. Protéger ce qui compte le plus. Chez Groupama Pacifique, profitez jusqu'à 20% de remise à vie sur vos contrats santé, prévoyance et accident de la vie. Parce qu'une bonne rentrée, c'est aussi une protection qui dure. Rendez-vous dans nos agences ou sur groupama-gan.nc. Voir conditions en agence. Copama.
Optique Boulary, la solution pour vos lunettes avec contrôle de la vue, même sans ordonnance. Vos marques préférées, Oakley, Maui Jim, Michael Kors, Ray-Ban et votre seconde paire, offertes toute l'année. Optique Boulary, l'opticien du Mont-d'Or.
Élection municipale à Nouméa, information pratique. Le scrutin se tiendra le dimanche 15 mars de 8h à 18h.
Les bureaux de vote ont été regroupés et répartis dans 8 lieux de vote à Nouméa. L'hôtel de ville, la salle de sport Wawanabou à Lansvata, la salle Jean Noyant à Lansvata, le collège Jean Lec à Magenta, le collège François Olivot aux Portes de Fer, le groupe scolaire Marie Courtois Henriette Gervolino au 6e kilomètre, le centre culturel Kowekara, le groupe scolaire Céline Tessandier de Lobared à la Vallée du Tir.
Pour connaître votre lieu de vote, contactez le 27 31 15. Consultez le site internet www.nouméa.nc ou rendez-vous directement à l'hôtel de ville. En cas de second tour, les mêmes lieux de vote seront conservés.
Ceci était un message de la ville de Nouméa.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec la préparation des élections municipales à Nouméa.
RRB, élections municipales 2026.
Avec tout d'abord une information, l'une des 8 listes déposées ne pourra peut-être pas se présenter aux élections des 15 et 22 mars. Il s'agit de la liste Nouméa pour tous, conduite par Claude Siré, qui pourrait être retirée en raison d'un problème administratif. Cela concerne l'un des colistiers qui aurait produit une fausse attestation de domicile. Les services du Haut-Commissariat s'en sont aperçus en vérifiant la composition de la liste et les justificatifs déposés par chacun des candidats. Et ils ont prévenu Claude Siré que sa liste pourrait être invalidée. Claude Siré se dit atterré par cette décision et il a l'intention de saisir le tribunal administratif pour pouvoir maintenir sa liste. Une affaire donc à suivre. À Nouméa toujours, les listes Unité Pays et MNIS s'insurgent de la décision de regrouper les 56 bureaux de vote de la commune en seulement 8 sites pour les élections municipales, Léo Fichou.
Oui, c'était l'objet de la conférence de presse tenue hier par la liste Unité Pays conduite par l'ECA Juniop. Pour la liste FLNKS, cette décision de regrouper les bureaux de vote de Nouméa pose la question de l'accès réel des citoyens au vote. Ses membres dénoncent un vote fragilisé, une démocratie en danger, en estimant que ce regroupement rend les distances à parcourir plus longues pour aller voter, provoque des files d'attente plus importantes et donc entraîne une diminution de la participation au vote. Selon la liste Unité Pays, ce sont les électeurs des quartiers populaires qui seront les premiers impactés par cette décision que dénonce l'ECA Juniop.
C'est dénoncer ce problème-là qu'en rassemblant tous les bureaux de vote dans une localité précise comme ça a été en 2024, c'est trouver une solution à ça. Donc on va les interpeller par rapport à ça. Et s'il n'y a pas de solution, si peut-être demain ils décident de garder ces localités, ben, on va peut-être leur demander de donner gratuitement le bus pour nos familles de tous les quartiers. On aura ces prochains jours demander un rendez-vous avec l'OCR pour ça, parce que c'est lui qui valide en dernier toutes les organisations de vote dans la ville de Nouméa. Si ce communiqué est sorti, c'est que l'OCR a validé tout ça. Donc nous, peut-être, on va prendre notre part de responsabilité à demander une réunion et de voir ça avec eux.
La liste Unité Pays demande la gratuité des transports pour permettre aux électeurs des quartiers nord de se rendre dans les centres de vote. La liste Nouméa Cœur Battant, conduite par Mouneiko Aouchas du MNIS, a les mêmes revendications. Dans un communiqué, elle interpelle officiellement le haut-commissaire sur les risques qui pèsent sur la sincérité du scrutin dans les quartiers nord en raison notamment du manque de transport, du regroupement des bureaux et d'un climat de tension. Le MNIS exige des mesures d'urgence comme des navettes gratuites et des garanties de neutralité pour assurer l'équité du vote. A noter que Véronique Forestier, qui conduit la liste Nouméa Le Renouveau, conteste elle aussi ce regroupement des bureaux de vote qui, selon elle, pénalise les électeurs et dessert la démocratie.
Et après Païta et Bouraille mardi et après Le Mondeur mercredi, nouveau rendez-vous spécial municipal sur Radio Rythme Bleu aujourd'hui à midi après le journal de 11h30. Les 6 têtes de liste en présence pour le scrutin à Dimbéas seront sur le plateau de Radio Rythme Bleu. Ce sera donc le 4e débat que nous consacrerons dans ces élections municipales. Les invités seront Cynthia Jean, Vaïmoua Mouliava, Daniel Guaner, Johan Lecourieux, le maire sortant, Muriel Malfar-Paouga et Rachel Auché. Sécurité, aménagement urbain, développement économique, les enjeux de la campagne municipale à Béa. C'est donc le prochain débat sur Radio Rythme Bleu et c'est à suivre à midi.
Info matin, 6h46.
L'actualité, c'est aussi l'actualité judiciaire. Deux personnes blessées hier en fin d'après-midi à Normandie. D'après nos informations, les faits se sont déroulés après une tentative de vol d'un téléphone portable dans un commerce. Deux personnes ont été interpellées. Selon nos informations, elles pourraient avoir donné des coups à l'arme blanche. Nous ne connaissons pas l'ampleur des blessures des victimes. L'enquête ne fait que débuter. La première session d'assises de l'année 2026 débute la semaine prochaine. Elle va durer 3 semaines et les jurés auront à se prononcer sur 6 dossiers, 3 affaires de sang et 3 affaires de mœurs, Léo Fichou.
La session débutera mardi prochain après la traditionnelle journée du lundi consacrée aux jurés par la comparution d'un homme accusé d'avoir tué sa compagne ou ex-compagne. Les faits se sont déroulés à Thiot en août 2023. L'accusé a tué à coups de pierre et de manière particulièrement violente sa victime en lui assénant de violents coups au visage à l'aide d'une pierre d'1,8 kg. Les jurés se pencheront ensuite sur un double meurtre qui a eu lieu au squat Dubaï à Nouville en avril 2023. À la suite d'une dispute avec son frère qui habite la cabane d'à côté, l'accusé est allé chercher un fusil chez lui. Il s'est rendu chez son frère et l'a tué de 2 coups de fusil dans la tête avant de tuer d'un coup de fusil dans le dos la compagne de son frère qui avait pris la fuite. 3 accusés comparaîtront pour la 3e affaire de sang au cours d'une bagarre autour de Saint-Quentin, toujours en 2023. L'accusé principal comparaîtra pour avoir fait tomber la victime du 5e étage. Celle-ci est tombée sur le bitume et a été grièvement blessée, conserve d'importantes séquelles. L'accusé affirme qu'il n'a pas poussé sa victime mais qu'elle a sauté pour tenter de lui échapper. Ce sont ensuite les affaires de mœurs que les jurés étudieront. La cour se penchera d'abord sur le cas d'un homme accusé d'avoir violé une femme au Vallon d'Or. C'était en mai 2023, après l'avoir repérée à la sortie d'un magasin et suivie chez elle. C'est ensuite un homme qui comparaîtra pour viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. C'est un procès en appel puisqu'en première instance, l'accusé avait été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Enfin, la dernière affaire est un viol commis sur un mineur de moins de 15 ans. Un homme âgé de 20 ans au début des faits est accusé d'avoir violé à plusieurs reprises sa petite cousine entre février 2020 et novembre 2023. Sa jeune victime, qui avait elle 9 ans au début des faits, a fini par en parler à une cousine après avoir subi ses viols pendant 3 ans.
Et d'autre part, le procureur de la République a communiqué hier sur une autre affaire de mœurs, Yves Dupas, qui indique que le parquet a ouvert une information judiciaire pour viol par conjoint. L'enquête a abouti à l'arrestation d'un homme à la tribu de Cuaden à Marais. Léo Fichou.
Oui, l'enquête fait suite à un signalement d'un personnel de santé après une visite de la femme de l'accusé au dispensaire qui a abouti à son hospitalisation au CHT. Elle présentait de graves liaisons gynécologiques. Elle a alors déclaré qu'elle subissait certains rapports sexuels de la part de son mari sous la menace d'un sabre d'abattis et d'un fusil, ou bien d'un fusil souvent après avoir été battu. L'enfant du couple, âgé de 8 ans, a pu assister à ces scènes de violence, l'amenant, pour protéger sa mère, à le dissuader de rentrer chez elle quand son mari s'y trouvait alcoolisé. Les violences intrafamiliales subies par la victime étaient manifestement connues de son entourage familial comme au sein de la tribu, indique le procureur de la République dans son communiqué. Mais elles n'ont jamais donné lieu à un signalement aux autorités, que ce soit de la part de la famille ou des responsables coutumiers.
Merci Léo Fichou, il est 6h50. On marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Rendez-vous à l'Hyper Auto Show du groupe Jandot sur le parking du centre commercial Hyper Upaïta du samedi 28 février au dimanche 8 mars. Plus de 10 marques représentées, des nouveautés hyper exclusives, des déstockages hyper massifs, des promos hyper intéressantes, des jeux, des animations et des solutions de financement. Ce serait hyper dommage de rater ça. L'Hyper Auto Show jusqu'au 8 mars au centre commercial Hyper Upaïta. Un salon organisé par le groupe Jandot. Plus d'infos sur la page Facebook. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pare-douche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Je cherche un appartement au calme, quartier sud, vue dégagée, proche de tout et neuf évidemment.
Ah mais c'est simple, tu veux Icon? Caillard et Cadour Immobilier vous ouvrent les portes d'Icon, la nouvelle résidence à Motorpool. Rendez-vous samedi 7 mars de 8h30 à midi au 12 rue Velasquez. Venez visiter et trouvez le bien à la hauteur de vos exigences. Plus d'infos sur Facebook, Caillard et Cadour Immobilier.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, on retrouve Nicolas Legrand.
Et tout d'abord, du côté des transports, le Petit Chaud reprend la mer aujourd'hui. Un aller Nouméa-Maré-Lifou est prévu aujourd'hui pour un retour demain. Dimanche, le Petit Chaud effectuera une rotation sur la journée à l'île des Pins. Notez qu'à la suite de ses problèmes moteurs, le Petit Chaud est un peu moins rapide. C'est pour cela que les horaires sont très légèrement décalés. Tout le programme est à retrouver sur le site internet du Petit Chaud. Et puis je rappelle que les avions d'Aircal, eux, sont toujours cloués au sol en ce cinquième jour de blocage. Les coutumiers des îles qui bloquent les aérodromes de Lifou, Ouvéa, Maré et l'île des Pins. Une cérémonie de remise de distinction hier aux sapeurs-pompiers de Nouméa. Lors de cette cérémonie à la caserne Lucien Parent, les sapeurs-pompiers de la ville étaient entourés de leur famille. Le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, et le commandant Géraldine Bourgoin ont remis des grades, des médailles et des diplômes à 20 sapeurs-pompiers et 16 jeunes sapeurs-pompiers. Écoutez Géraldine Bourgoin.
C'est une cérémonie qu'on fait chaque année pour mettre effectivement en valeur l'engagement des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, de nos nageurs sauveteurs et puis également de nos jeunes sapeurs-pompiers. C'est une DECIS qui vit, c'est une DECIS qui évolue, qui s'adapte. C'est important effectivement de les mettre à l'honneur par rapport à ça et une remise de grade est toujours importante. C'est le travail d'une année, une année encore bien complète, bien intense. Donc faire reconnaître l'engagement de tous et puis rappeler aussi qu'on est là au service de la population et voilà, pas oublier le sens de notre travail.
16 sapeurs-pompiers volontaires et 4 sapeurs-pompiers professionnels ont été promus au grade supérieur. Parmi eux, le commandant Guépy, chef de service au centre de secours de la ville de Nouméa.
J'en suis très fier, d'autant plus que l'examen que la ville a organisé, les sujets ont été rédigés par un service départemental de métropole et corrigés par des officiers supérieurs de métropole. Et donc ma réussite à cet examen, pour moi, elle est double. C'est-à-dire qu'on a un Calédonien qui montre qu'il a le niveau pour être commandant. Donc c'est une opportunité pour nos jeunes de continuer. Et personnellement, c'est également une grande fierté par rapport à mon père, qui était le directeur adjoint de la sécurité civile et qui était commandant de sapeurs-pompiers également. Beaucoup d'émotions, surtout que cette cérémonie-là, elle a mis en lumière plusieurs collègues, notamment un qui vient de prendre ses fonctions en tant que directeur adjoint à la sécurité civile, le commandant Thomas Depardon. Ça faisait 25 ans qu'on travaille ensemble. Et le major Thierry Lévesque, l'ancien chef de centre du centre de secours et de surveillance nautique, qui a œuvré et créé de toutes pièces ce centre, qui est donc parti à la retraite et on lui a rendu hommage également. Donc oui, c'est une cérémonie au-delà de mon grade qui est très importante pour le corps des sapeurs-pompiers de Nouméa, oui.
Un des propos recueillis par Kélinda Boiscou. De la fierté aussi à la station N hier soir, avec la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants du centre de formation par l'alternance de la CCI. Ils étaient 63 en alternance à recevoir leur diplôme. Ces lauréats de la promotion 2025 ont décroché en un ou deux ans l'un des 12 titres ou diplômes proposés par le CFA de la CCI dans les domaines du commerce, du service aux entreprises, du médico-social, de la logistique ou encore du numérique. Écoutez David Leclerc, le responsable des écoles de la CCI.
C'est une promotion particulière parce que la plupart ont démarré en 2024. Ça a été compliqué de trouver des entreprises quand ils ont pu le faire. Ça a été compliqué de rester dans les entreprises. Et puis, ils ont vécu comme les tuteurs, comme les chefs d'entreprise et comme l'équipe des écoles des moments difficiles. On a eu une période où on a assuré les cours à distance. Donc, ils ont tenu bon. On peut dire que c'est une promo qui a été persévérante et qui mérite bien son diplôme ce soir. On est toujours fiers de toutes les promos, mais là, c'est vrai que c'est une promo avec laquelle on a traversé la tempête. Hein, et on leur souhaite vraiment l'épanouissement pro et perso. Et j'ai pas trop d'inquiétude. Là, les premiers retours en termes d'insertion, que ce soit professionnel ou poursuite d'études, sont plutôt très positifs.
Une remise de diplôme qui s'est déroulée en présence de David Guyenne, le président de la CCI, et de Jean-Gabriel Faget, le directeur général d'Enercal, parrain de cette promotion, donc 2025. Un rendez-vous sur Radio Rythme Bleu. L'école doctorale de l'UNC a fait sa rentrée. Cette année, elle accueille une cinquantaine d'étudiants en préparation de leur thèse. Une petite vingtaine d'entre eux devraient d'ailleurs présenter leur thèse cette année. Alors, comment se déroule leur recherche et sur quel thème? Le directeur de l'école doctorale, Jean-Marc Boyer, sera ce matin notre invité à 7h30. Et puis les femmes seront à l'honneur à Nouméa à l'occasion de la 19e édition du Salon des Femmes qui débute ce matin à la salle d'exposition de Nouville, l'ex-maison des artisans. L'occasion de découvrir les différents espaces du salon, bien-être, beauté, sport, nutrition, mode. Plus de 80 exposants qui vous accompagneront pendant 3 jours. L'événement mettra aussi en lumière l'émancipation des femmes à travers une exposition, des témoignages et des ateliers. Les précisions de Bruno Aurelio, le gérant de Pacific Fair, organisateur du salon.
On aura en tout et pour tout 80 exposants sur le salon, répartis dans les 2 salles intérieures et tout le côté extérieur également. Pour les points forts, on en a un petit peu tous les jours à toutes les heures. J'invite les auditeurs à retrouver le programme sur la page Facebook Salon des Femmes 2026. Encore une fois, on a essayé de faire un salon qui parle à toutes les femmes du territoire, à tous les âges, à toutes les communautés, afin que toutes les femmes calédoniennes soient représentées.
Le 19e Salon des Femmes ouvrira ses portes au public aujourd'hui de 9h à 19h, demain de 9h à 18h, puis de 9h à 17h le dimanche 8 mars à la salle d'exposition de Nouville, l'ex-maison des artisans. Et puis enfin, vous le savez, avec Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. Vous avez jusqu'à 14h pour participer à notre jeu chance et tenter de gagner vos repas Aquavena d'une valeur de 140 000 francs. Alors pour jouer, c'est simple. Vous envoyez chance au 40-20 par SMS. Le tirage au sort aura lieu à 14h. Bonne chance. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. Il est 6h, passé de 57 minutes. On marque une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et si votre prochain repas vous faisait gagner gros? Avec la casserolette, tentez de remporter un Samsung Galaxy 5G, des tablettes et jusqu'à 1 an de repas offerts. Pour jouer, direction la page Facebook La Casserolette. Je répète, la page Facebook La Casserolette. Likez, commentez le visuel avec la bonne réponse et c'est parti. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Au fait, depuis peu, on vous attend 69 route du Port des Pointes, Faubourg Blanchot. La Casserolette, le goût, le jeu, le plaisir.
Oh, mais ils ont vraiment décidé de gâcher notre barbecue, hein? Ils se sont donné le mot ou quoi?
Relax, c'est justement pour ça que j'ai pensé à Vape, l'anti-moustique qui marche vraiment.
Ah, le silence, c'est magique. Les tortillons aux prises anti-moustique Vape, disponibles dès maintenant en magasin.
Parce que chaque instant compte, AXA protège ce qui est précieux. Votre famille, votre santé, vos biens et votre épargne. AXA, plus qu'une assurance, un partenaire de confiance au quotidien.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
À la une du rugby.
Performance, engagement, dépassement de soi, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Et Fabien Galthié qui a donc dévoilé la composition du 15 de France pour affronter l'Écosse dans le cadre de la 4e journée du tournoi Destination, Léo Fichou.
Oui, et c'était attendu. Quelques retouches pour cette finale avant l'heure. Remis de leurs blessures musculaires, Mathieu Jalibert, Nicolas Deporter et Yoram Moefana seront bien titulaires. Les autres Calédoniens, Peato Movaka et Rodrigue Néti, sont eux remplaçants. Sans surprise, Antoine Dupont sera lui capitaine. Mais ce qu'on retient aussi de la conférence de presse du sélectionneur, c'est une anecdote sur le vestiaire du Murrayfield Stadium. Le décor est planté. Écoutez Fabien Galthié.
Toujours très difficile de se déplacer en Écosse. Le vestiaire, il faut savoir que c'est le plus petit vestiaire pour moi au monde. On se change dans les couloirs. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils nous obligent à nous changer dans le couloir. On a beau demander régulièrement s'ils peuvent nous donner la pièce d'à côté, qui est disponible et qui est normalement l'autre partie du vestiaire, eh bien on ne l'a pas. Donc on continue à se préparer, à se changer dans le couloir pour un match international. Le vestiaire des arbitres est plus grand. Ça donne un ton, donc on sait où on met les pieds dès l'arrivée au stade.
Écosse-France, c'est donc à 1h10 dans la nuit de samedi à dimanche. En cas de victoire bonifiée, les Bleus remporteront le tournoi Destination. Mais l'objectif n'est pas vraiment là. Les joueurs du 15 de France veulent réaliser le grand chelem. Et pour ça, il faudra aussi battre l'Angleterre lors de la dernière journée.
Et les autres rencontres du week-end, demain matin à 7h10, l'Irlande recevra le Pays de Galles. Et puis à 3h40, l'Italie accueillera l'Angleterre.
Jusqu'au 14 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
En métropole maintenant, on parle de football avec cette question. Qui de Lyon ou de Lens rejoindra Strasbourg, Nice et Toulouse dans le dernier carré de la Coupe de France? Lyonnais et Lensois s'affrontent dès 7h10. C'est un choc, hein. Le choc d'ailleurs de ces quarts de finale entre le 3e et le 2e de Ligue 1. Le vainqueur rencontrera Toulouse en demi, tandis que Strasbourg accueillera Nice.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soitil, Unicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin, malgré la présence de nuages élevés, les éclaircies seront souvent présentes sur la Grande Terre, un bémol sur la pointe sud où les nuages seront plus nombreux, où une averse isolée reste possible. Le vent orienté à l'est pour ce matin, 5 à 10 nœuds, voire 10 à 15 nœuds, ce sera sur la pointe nord. Voyons voir pour cet après-midi, les nuages viendront plus nombreux, notamment sur la chaîne. Des averses se déclencheront puis se décaleront sur l'est au fil des heures. L'extrême nord et la côte ouest profiteront d'un temps plus lumineux avec davantage d'éclaircies. Au loyauté, des averses isolées circuleront encore. Orienté est-sud-est, le vent pour cet après-midi compris entre 5 et 10 nœuds, voire 10 à 15 nœuds sur les loyautés et l'extrême nord, ce sera le maximal. Les températures en général, 29 à 32 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.